Le journal par Clarence Rodriguez.
Bonjour à tous. Pour la troisième fois en 3 ans et demi, les électeurs espagnols sont appelés ce dimanche aux urnes des législatives qui devaient être organisées en 2020. Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, a été contraint en février dernier de remettre en jeu son mandat, un scrutin qui pourrait être historique puisque le parti d'extrême droite Vox pourrait faire son entrée au Parlement. Nous irons à Madrid dans un instant. Élection aussi au Bénin, les Béninois appelés à élire leurs députés aujourd'hui. Ce petit pays de 11 millions d'habitants est souvent présenté comme un modèle de démocratie en Afrique. Mais pour la première fois depuis 30 ans, l'opposition est privée d'élections. Nous entendrons dans ce journal la présidente du Social Watch Bénin, interrogée par Valérie Crova. Les excuses du New York Times. Dans son édition internationale de jeudi dernier, le quotidien américain a publié une caricature au relent antisémite. On y voit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tenu en laisse par un Donald Trump aveugle. Les électeurs espagnols appelés ce dimanche aux urnes, ces législatives devaient être organisées en 2020, mais la politique espagnole en a décidé autrement, n'ayant pas réussi à rassembler deux majorités autour de son budget pour 2020. Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, a été contraint en février dernier de remettre en jeu son fragile mandat. Du coup, des élections législatives anticipées se déroulent aujourd'hui en Espagne. C'est la troisième fois en 3 ans et demi que les Espagnols retournent aux urnes. Et cette fois-ci, le scrutin pourrait être historique puisque le parti d'extrême droite Vox pourrait faire son entrée au Parlement. Isabelle Laberry à Madrid.
Le bureau de vote s'est installé dans l'immense chapelle du collège catholique. À la sortie de l'isoloir, Myriam, qui tient un salon de coiffure dans le quartier, est soulagée.
Hier, je ne savais pas du tout pour qui j'allais voter. J'ai demandé conseil à des amis qui s'intéressent à la politique. Je suis plutôt à gauche, mais je voulais éviter les extrêmes et surtout voter de façon responsable.
Si Myriam a choisi le centre droit, dans ce quartier très conservateur, beaucoup d'électeurs ont donné leur voix à l'extrême droite. Rolré, travailleur intérimaire, venu en tenue de sport, dénote un peu dans le décor. Déçu par le Parti populaire qui, selon lui, a mal géré la crise catalane, il a cette fois, lui aussi, donné sa voix à Vox.
On va avoir une surprise aujourd'hui, une grosse surprise, et j'espère qu'on leur rabattra leur caquet aux indépendantistes. Je ne veux pas que des personnes belliqueuses aient une place au Parlement national. On va leur montrer que nous sommes plus forts qu'eux et qu'on doit tous respecter les mêmes règles.
Si le chef de gouvernement socialiste est donné vainqueur, Rolré est persuadé qu'une coalition droite-extrême droite peut malgré tout emporter la majorité absolue. Mais pour Enrique, fonctionnaire dans l'administration judiciaire, le vrai problème est ailleurs.
Ce qui m'inquiète, ce n'est pas que Vox fasse un gros score, c'est que nos hommes politiques ne sont pas à la hauteur. On a une génération de dirigeants médiocres, un manque de leadership. On l'a vu dans les débats, il n'y avait que des échanges d'invectives et pas de débat d'idées.
Le journal El País titre ce matin « L'Espagne vote divisée et dans une grande incertitude ».
Reportage à Madrid d'Isabelle Laberry. Les Béninois sont eux aussi appelés à élire leurs députés aujourd'hui. Ce petit pays de 11 millions d'habitants est souvent présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, mais pour la première fois depuis 30 ans, l'opposition est privée d'élections. Sous l'impulsion du président béninois, Patrice Talon, le Parlement a en effet voté un nouveau code électoral qui écarte de fait les partis qui ne lui sont pas apparentés. Blanche Sonon, présidente du Social Watch Bénin, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile béninoise, est interrogée par Valérie Crova.
Il y a des réformes politiques, surtout électorales, qui ont bloqué des partis politiques, si bien que systématiquement, les partis politiques sont écartés. Et pire, il y a certains partis politiques qui n'ont pas pu obtenir aussi leur quitus, si bien qu'il ne reste plus que 2 partis qui seront mis en compétition. Et ces 2 partis, malheureusement, sont les 2 blocs du chef de l'État. Donc, ce seraient des élections monocolores. La population béninoise n'aura plus la possibilité de faire un choix, donc exercer librement et son droit de vote, qui est un droit inaliénable.
Le Bénin est présenté comme un des modèles de la démocratie en Afrique. Hein. Comment vous vivez ça, vous, en tant que béninoise?
C'est de l'infamie. Faut pas se cacher derrière un doigt. C'est un recul par rapport aux acquis de la démocratie chèrement conquise par notre pays. C'est le seul joyau que nous vendons au plan national, sous-régional et international. L'Assemblée nationale serait une caisse de résonance et non plus une représentation nationale qui va bien jouer son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. C'est une négation de l'état de droit.
Fusillade dans une synagogue lors de la Pâque juive près de San Diego en Californie. Une femme a été tuée et trois autres personnes, dont un rabbin, ont été blessées. L'auteur des coups de feu, un jeune homme de 19 ans, a été arrêté. Il se revendique antisémite et islamophobe. Donald Trump a aussitôt pris la parole pour présenter ses plus sincères condoléances et condamner cet acte d'antisémite et de haine. Des excuses du New York Times dans son édition internationale de jeudi dernier, le quotidien américain réputé pour sa ligne éditoriale plutôt sérieuse a publié une caricature au relent antisémite. On y voit Cyprien Pezril, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, tenu en laisse par un Donald Trump aveugle.
Oui, Benjamin Netanyahou représenté en chien guide avec une étoile de David en collier. Et à l'autre bout de la laisse, le président américain lunettes noires d'aveugle et kippa. Ce que sous-entend très clairement ce dessin, c'est que Donald Trump suit aveuglément les juifs. Une caricature publiée dans les pages opinion de la version internationale du quotidien est censée illustrer un article sur l'immigration sans grand lien avec Israël. Donc, le New York Times a depuis présenté ses excuses et retiré l'illustration de son site internet. Mais impossible de faire marche arrière pour l'édition imprimée. Dans un tweet hier, le quotidien reconnaît que l'image était offensante, que c'était une erreur de jugement de la publier. Reste alors une interrogation, comment un tel dessin a pu se retrouver dans les colonnes d'un quotidien tiré à 170 000 exemplaires. Avant l'impression, il y a plusieurs personnes chargées de valider, de revalider les pages. Sur Twitter, le fils de Donald Trump Jr., fustige un portrait répugnant à l'antisémitisme flagrant. Le gouvernement israélien, par la voix de son ministre de la Sécurité publique, juge, quant à lui, que la publication rappelle la propagande nazie.
Merci Cyprien. Au Soudan, les contestataires et l'armée d'accord pour se partager le pouvoir. Ce compromis intervient deux semaines après la destitution du président Omar al-Béchir, chassé du pouvoir par des manifestants qui, au début de leur mouvement de contestation, dénonçaient le triplement du prix du pain. Les opposants réclament un pouvoir civil et le jugement de l'ancien président et des principaux responsables de son régime. En Libye, les habitants de Tripoli, dépités par l'offensive du maréchal Haftar, trois semaines après le début de son offensive sur la capitale, le patron de l'armée nationale libyenne peine à susciter la sympathie d'une population souffrant de l'escalade des violences, des raids aériens et plusieurs explosions observées cette nuit sur la capitale. Un conflit qui se transforme en guerre, comme nous l'explique notre correspondante à Tunis, Maureen Mercier.
Trois casernes ont été attaquées par des drones cette nuit. Haftar n'a pas de tels avions, ce sont les Émirats Arabes Unis ou d'autres puissances étrangères qui l'aident. Témoignage et analyse d'un habitant joint ce matin à Tripoli. Il suit les événements de très près et se rend régulièrement sur les différentes lignes de front. Dès le début de l'offensive du maréchal sur la capitale, il a très vite compris que l'homme fort de l'est du pays n'était pas là pour exercer une pression ponctuelle pour peser sur le processus de réconciliation politique qui devait se tenir ce mois d'avril. Non, Haftar a fait voler en éclats toute solution diplomatique. Il compte bel et bien s'emparer de Tripoli, la capitale, et de l'ensemble du pays. S'il parvient à prendre Tripoli, nous vivrons sous les ordres d'un dictateur militaire. Si nos forces parviennent à le bloquer, la guerre se poursuivra très longtemps et nous subirons à nouveau des bains de sang, résume un jeune Libyen qui raconte ce matin s'être réveillé la boule au ventre. Les combats concentrés pour l'instant autour de Tripoli ont fait près de 280 morts, dont des civils, 1350 blessés, près de 40 000 déplacés. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, le pays entame sa troisième guerre civile.
Les autorités sanitaires rappellent par précaution des fromages Saint-Marcellin et Saint-Félicien après la contamination de 13 jeunes enfants par la bactérie Escherichia coli. Des fromages essentiellement commercialisés sous plusieurs marques de distributeurs, notamment Fromagerie Alpine, Carrefour, Reflet de France, Leclerc, Lidl ou Auchan. Dans un communiqué commun, la Direction générale de la Santé précise que ce sont des enfants âgés de 6 mois à 4 ans qui ont été contaminés. Ils souffrent de complications rénales. Il est 12h passé de 39 minutes, vous écoutez le journal de France Culture, l'heure de la face cachée du globe, préparée et présentée par Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Clarence. Le Parlement ukrainien a adopté jeudi une loi qui renforce l'usage de la langue ukrainienne. Ses quotas seront élargis dans les médias audiovisuels et son utilisation sera rendue plus stricte dans les cadres officiels, de quoi largement mettre en colère Moscou. Et au passage, le président sortant Porochenko met dans la gêne son successeur Zelensky. L'ancien comédien s'exprime plus facilement en russe qu'en ukrainien. La saison des purges n'est jamais terminée en Turquie. 115 membres des forces armées ont été arrêtés vendredi. Les autorités traquent sans relâche les personnes soupçonnées d'être des sympathisants du prédicateur Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis et soupçonné par le président Erdogan d'être derrière la tentative du coup d'État avorté de juillet 2016. Depuis cette date, 55 000 personnes ont été arrêtées et 140 000 autres licenciées ou suspendues. Immuniser contre le paludisme 360 000 enfants d'ici 2020, c'est l'objectif que se donne l'OMS. Un test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé à ce jour a été lancé mardi au Malawi et doit se poursuivre au Ghana et au Kenya. Le Malawi espère avec ce vaccin éviter 1 million des 6 millions de cas de malaria détectés chaque année dans le pays. Les Portugais ont célébré jeudi la révolution des œillets qui a mis fin à 48 ans de dictature au Portugal et a ouvert la voie à la décolonisation. De jeunes officiers ont mené cette révolution avec le soutien de la population. Victor Pereira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et maître de conférences à l'Université de Pau. Vous êtes en ce moment au Portugal. Fascisme plus jamais, scandait les marcheurs jeudi. 45 ans après la révolution des œillets, comment cette date résonne chez les jeunes qui ne l'ont pas connue?
Ça dépend souvent de la socialisation de leurs pères et de leurs grands-parents aussi. Par exemple, dans les défilés, il y avait beaucoup de personnes de différents âges. Donc souvent, c'est une histoire qui se transmet dans les familles et qui vient compléter l'enseignement qui est donné évidemment à l'école primaire, au collège, où on enseigne ce qu'a été la dictature, ce qu'a été Salazar, ce qu'ont été les guerres coloniales. Et après, bien sûr, il y a souvent un discours qui est de dire que les plus jeunes ne savent plus très bien ce que c'est que le 25 avril parce qu'ils ont du mal à imaginer le régime précédent dans lequel ils n'ont jamais vécu et dont on espère qu'ils ne vivront jamais.
Une révolution des œillets pacifiques qui a permis ensuite au Portugal de devenir un pays démocratique, certes, mais avec toujours des déséquilibres économiques et sociaux, des inégalités qui continuent de saper la cohésion entre les gens, disait jeudi le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Victor Pereira, ces faiblesses sont toujours considérées au Portugal comme un legs des années de dictature, justement.
Bien sûr, la dictature jusqu'en 1974 avait quasiment pas de politique sociale, donc tout ce qui était la santé, voire même l'éducation. Et donc il est resté de importantes carences. Il y avait encore 40% d'analphabètes au Portugal dans les années 60. Tout ça, c'est un legs difficile. Et l'État-providence, qui est né à partir de 74-75, a permis de réduire des inégalités qui étaient extrêmement fortes, même si elles continuent à être assez importantes au niveau de l'Europe. Le Portugal est souvent un des pays les plus inégalitaires. Et le Portugal a été fragilisé très durement pendant les années de crise après 2008 et entre 2008 et 2015-2016. Une période de fort chômage, de forte émigration et de forte croissance des inégalités qui se résorbent, mais qui restent importantes.
On imagine que c'est cette situation économique fragile qui sera l'enjeu principal des élections législatives d'octobre.
La situation économique et sociale sera importante, avec évidemment les interprétations différentes en fonction des partis. Le Parti socialiste qui est au pouvoir dira que les succès, la baisse du déficit, la baisse importante du chômage, le retour de la croissance économique, le fait qu'il y ait beaucoup d'activités, notamment liées au tourisme, est le résultat de son bilan. Le PSD, dont les dirigeants ont changé, diront que c'est les fruits des réformes qu'elles ont mises en place, des réformes assez difficiles. Et il y a aussi, depuis quelques semaines, d'autres enjeux, notamment il y a eu un changement dans le gouvernement et il y a plusieurs personnes d'une même famille qui sont représentées au gouvernement. Et là, ça a posé des questions en termes d'endogamie, d'élite au gouvernement. Donc, cela donne l'impression que l'économie sociale ne sera pas la seule question qui sera au cœur des élections, mais aussi d'autres questions, donc notamment celles liées au recrutement des élites politiques.
La révolution des œillets est une référence citée comme un espoir lorsque l'actualité évoque aujourd'hui des régimes qui font face à des contestations populaires, comme au Soudan ou en Algérie.
On utilise souvent cet exemple de révolution pacifique. Mais après, ce qui change, c'est que dans le Soudan, au Soudan, en Algérie, c'est les militaires qui essaient de conserver le pouvoir. Là, en l'occurrence, ce sont les militaires qui ont mis fin à un pouvoir. qui était né lui-même d'une révolution militaire en 1926. Et ces militaires ont gouverné pendant un an et demi, mais ils ont su revenir dans les casernes et laisser les civils, les partis politiques, exercer le pouvoir. Donc c'est souvent un exemple cité, mais rarement un exemple qui a été reproduit dans d'autres pays où ce sont des militaires qui mettent fin à la dictature et acceptent, au bout d'une certaine période, laisser le pouvoir aux civils et laisser la place à une démocratie libérale.
Merci à vous, Victor Pereira. Je rappelle que vous êtes maître de conférences à l'Université de Pau. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. On rappelle qu'on vous retrouve donc dimanche prochain pour ce nouveau numéro. Pour terminer, un mot du temps. Nuageux et frais sur l'ensemble du territoire. De la neige tombera vers 700 à 900 mètres sur les Vosges et le Jura, vers 1000 mètres sur les Alpes du Nord. Température plutôt fraîche de 12 à 18 degrés cet après-midi. Autant de raisons de rester au chaud et écouter France Culture.